Eh bien, d'abord, bonjour à vous tous. J'espère que personne ne s'est trompé de salle. Nous sommes bien embarqués pour une lecture de Part de la bien et le mal de Nietzsche jusqu'au 18 décembre. Alors, pendant cette première séance, je vais d'abord m'arrêter sur le fait que nous allons lire un livre de Nietzsche et aussi présenter cette œuvre dans un deuxième temps dans l'itinéraire nietzschéen, puisqu'on ne peut guère séparer cet itinéraire biographique de l'œuvre elle-même. Et enfin, nous commencerons à nous interroger sur le titre et le sous-titre de ce livre, et peut-être, si nous avons le temps, nous commencerons à lire la préface. Et je vous dirai en cours de route quel texte nous allons lire. Alors, je crois d'abord qu'il faut insister sur le fait que nous allons lire des textes. Nous allons lire une œuvre de Nietzsche, à savoir « Par-delà bien et mal », une œuvre écrite entre 1884 et 1885. Je vais revenir dans un instant sur ce moment privilégié de l'itinéraire nietzschéen. Mais j'insiste sur le fait que nous allons lire. Autrement dit, je ne vais pas proposer un cours sur ou un cours à propos de, mais nous allons lire. Et en faisant cela, nous rentrons de plein pied dans la perspective nietzschéenne, dans la philosophie nietzschéenne. Nietzsche a toujours insisté sur la matérialité du texte. Nous verrons tout à l'heure que, par métier, il était un philologue, c'est-à-dire un homme habitué à lire des textes anciens, et donc à les lire avec minutie, avec précision, avec rigueur. Et il a toujours insisté sur la nécessité pour son lecteur, du moins pour celui qui voudrait bien le lire, de bien prendre en compte la matérialité de ses textes, de bien en mesurer la complexité, de bien en voir les nuances, de bien peser aussi les ambiguïtés, car nous aurons l'occasion de le voir très vite, ce sont des textes plein de chausse-trappes, c'est un labyrinthe, il aime lui-même à illustrer son œuvre par cette métaphore du labyrinthe, donc des textes dans lesquels on se perd, dans lesquels on ne sait plus très bien où l'on en est, dans lesquels il faut revenir en arrière, et par conséquent, l'importance du texte signifie aussi pour Nietzsche l'importance du sensible. S'il insiste tellement sur le texte, c'est parce qu'il se méfie d'une fuite trop rapide vers l'idée, de mettre de côté le texte et en une certaine façon de n'en retenir qu'une leçon, qu'une idée, qu'un concept, qu'aurait perdu au fond sa densité littéraire. Alors on pourrait déjà dire là que nous avons affaire à pas simplement un conseil de lecture, mais déjà un propos nietzschéen très profond. Cette valorisation du sensible un peu par méfiance à l'égard de l'idée, c'est déjà un geste anti-platonicien. Il ne faut pas trop vite s'évader du littéral, du chemin compliqué, des pierres sur la route, pour tout de suite viser au concept, à l'idée, au résumé de la pensée. Il faut donc accepter de cheminer, et de cheminer difficilement en se heurtant à des pierres, à des contradictions, etc. Donc on pourrait dire déjà par là que cette valorisation du texte dans sa matérialité n'est pas simplement un conseil de lecture, ne pas aller trop vite, prendre le temps de suivre les méandres de la pensée, c'est déjà, je crois, un geste philosophique, à savoir ne nous évadons pas trop vite du sensible, c'est là que se trouve d'une certaine façon l'essentiel, mais encore faut-il bien peser ce sensible. Et donc c'est une seconde remarque que je pourrais faire à ce propos. C'est qu'il ne suffit pas seulement de lire le texte. Nous lisons tous des journaux à grande allure parce que nous savons qu'après tout, ils ne vont pas nous apprendre grand-chose, donc on feuillette les textes. Ça n'est pas le conseil, évidemment, que Nietzsche donnerait à son lecteur. Ce qu'il attend, comme il le dit au début de La généalogie de la morale, qui est un texte pratiquement contemporain du nôtre, c'est des lecteurs qui soient des vaches. Entre parenthèses, nous trouvons aussi en passant l'ironie nietzschéenne ou son humour. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas croire qu'il est trop vite un germanique, un allemand lourd et un peu balourd. C'est un homme certainement lourd, par beaucoup de côtés, nous aurons l'occasion de le voir. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un homme plein d'humour. Et si on rate l'humour, qui ne se laisse pas toujours bien déchiffrer, si l'on n'est pas attentif à ce que le texte a même de drôle et de risible, alors je crois qu'on passe là aussi à côté. Donc, ce qu'il veut, c'est des vaches. Ça ne paraît pas très flatteur, mais à ses yeux, les animaux ont une grande place, notamment dans le Zarathoustra, et les vaches ont surtout cette qualité d'être des ruminants. La vache ne se contente pas de brouter et d'avaler, elle mastique, elle remâche, elle reprend, elle revient sur, elle ne va pas trop vite au but, elle reprend et elle revient sur le même. Et voilà ce que Nietzsche veut, c'est des lecteurs qui ne croient pas trop vite en avoir fini avec le texte. Donc dire, ah ben oh oui, j'ai compris, ça va, d'accord, bon très bien, il a d'une sottise ici, une énormité, passons à autre chose de plus sérieux. Non, ce qu'il veut, c'est des lecteurs patients, des lecteurs ruminants, c'est-à-dire en un sens qui n'en ont jamais fini avec le texte. Et nous avons déjà, je crois, une clé de lecture qui est tout à fait d'ailleurs impressionnante quand on, comme c'est mon cas, quand on a lu pendant des années le texte de Nietzsche, on s'aperçoit que, au fond, on ne l'a jamais bien lu. C'est d'ailleurs assez étrange. Le texte nous révèle toujours quelque chose de nouveau. Bon, il peut y avoir mille raisons. Ça peut venir de ce qu'on a lu trop vite, ce qu'on n'a pas assez lu. Ça peut venir aussi de ce que le texte a des profondeurs cachées. Je vais revenir dans un instant sur cette idée de profondeur. Et donc, il ne faut pas trop vite digérer le texte, il faut le laisser revenir, le ruminer. Il faut même prendre plusieurs regards sur le texte. Et nous touchons là un thème que nous allons rencontrer dans le Parle de la vie bien de mal, l'idée de perspectivisme. Il ne faut pas une lecture de surplomb, c'était la première remarque que j'ai faite, une lecture qui se déleste de la littéralité du texte, il faut cheminer dans le texte et le ruminer, parce qu'on peut prendre diverses perspectives du texte. La philosophie nietzschéenne est une philosophie de la perspective. Or, nous aurons l'occasion de le voir maintes fois, la référence à l'art est essentielle chez Nietzsche. Eh bien, quand on regarde un tableau d'un grand peintre, on ne le regarde que sous une certaine perspective. On ne voit que certaines choses que l'on peut voir parce qu'on est disposé pour les voir, parce qu'on a telle humeur ce jour-là, ou parce qu'on a la culture qui nous fait découvrir tel ou tel aspect. Mais il est bien clair que si nous revenons un mois après devant l'œuvre, nous allons avoir une autre perspective, et qu'elle va se révéler autrement à nous. On pourrait dire la même chose de la musique, c'est on n'a jamais fini avec une grande œuvre de Bach ou de Beethoven. C'est-à-dire que cette œuvre à la fois est profonde, mais aussi, on ne peut en prendre, j'allais dire, qu'une parcelle à chaque fois, une perspective, un point de vue. Un point de vue. Et celui qui prétendrait qu'il a tout compris d'un tableau de Cézanne ou de Rembrandt ou de qui vous voudrez, qu'il a été jusqu'au fond de la pensée de Bach dans ses cantates ou ce que vous voudrez, c'est un imbécile, dirait Nietzsche. C'est un idiot qui se croit savant mais qui n'a rien compris à rien. Donc, il faut accepter d'être devant un texte comme quelqu'un qui n'en prend qu'une perspective. Et dire cela, eh bien, c'est redoubler ce que je disais tout à l'heure. Si l'on prend une perspective, ça veut dire qu'il y en a d'autres à prendre. Donc, que la lecture du texte, d'une certaine façon, est indéfinie. Alors, cet exercice, d'ailleurs, montre aussi, troisième petite remarque, le caractère irréductible de toute pensée à des thèses simples. Irréductible toute pensée à des thèses simples. On pourrait le dire évidemment de toute philosophie, on croit savoir ce qu'il en est de Platon, d'Aristote ou de Descartes. Ah oui, oui, c'est le je pense, donc je suis, oui d'accord, bah, très bien. Bon, ça veut dire qu'on n'a rien compris, parce que pour comprendre le je pense, donc je suis de Descartes, il faut tout un cheminement, justement, il faut tout un chemin. Mais enfin, ce qui est vrai en général est encore plus vrai de Nietzsche, parce qu'on a affaire, nous n'allons cesser de le voir, à une pensée non seulement complexe, mais par certains côtés contradictoire, qui ne se livre pas si facilement, et même qui se dérobe, on va lire tout à l'heure quelques passages qui nous l'indiqueront, qui se dérobe à au lecteur, qui se dérobe à la compréhension simple. Et donc, il faut se débarrasser de l'illusion de croire savoir. Or, tout le monde croit savoir, non seulement sur Descartes que je citais, mais sur Nietzsche. Ah oui, c'est le surhomme, c'est la volonté de puissance, c'est l'éternel retour, oui, oui, on a compris de quoi il s'agissait. Eh bien, vous le savez sans doute déjà si vous avez un peu lu, la réalité est évidemment, effectivement, bien plus compliquée. Si on peut arrêter les portables, ce serait mieux. C'est en réalité bien plus compliqué parce que, autre thèse très profondément nietzschéenne, la vérité se dérobe. On ne peut jamais la cerner et prétendre la posséder. Alors, c'est évidemment quelque chose de paradoxal, parce que le style nietzschéen est tout à fait simple. Si on lit du Hegel ou du Heidegger, on voit tout de suite, on comprend tout de suite qu'on ne comprend pas. Et c'est d'ailleurs l'astuce de ces philosophes que de montrer combien il faut suer pour les comprendre. Dans le cas de Nietzsche, n'importe qui peut lire les textes et dire « Oh, mais comme c'est joli, cette belle poésie, il nous parle de la pluie et du beau temps, il nous parle des oiseaux, etc. » Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est qu'il se dérobe en même temps. Il se dérobe, c'est à travers des choses qui paraissent simples, il laisse entendre des choses compliquées. Et c'est d'ailleurs là une des raisons, me semble-t-il, pour lesquelles il y a tant d'interprétations contradictoires de Nietzsche. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, plutôt que de faire un cours sûr, c'est-à-dire de donner une interprétation, je crois qu'il vaut mieux le lire. Et puis chacun de vous en tirera ce qu'il peut en tirer, rien ou beaucoup, selon chacun. Donc c'est un paradoxe, c'est à la fois une philosophie extrêmement simple, au moins dans son texte, même s'il est plein d'embûches, et en réalité, extrêmement subtil. Et je dirais qu'à nouveau, nous avons affaire ici à une philosophie de la nuance. C'est un mot français que Nietzsche utilise souvent, la nuance. Alors, c'est tout le paradoxe à nouveau. Comme vous savez, le Crépuscule des idoles a pour titre « Comment on fait de la philosophie à coups de marteau ?» Alors, évidemment, vous allez dire « à coups de marteau, ça fait pas beaucoup de nuances ». Tape tant qu'on peut sur l'enclume, n'est-ce pas? Bon. Eh oui, mais attention, le marteau, c'est pas simplement la forge du forgeron qui tape sur l'acier. Le marteau, c'est aussi l'oreille. Et le marteau, c'est aussi le marteau du piano, qui donne une petite note. Alors, philosopher à coups de marteau, ben, c'est tout ça. C'est à la fois fracasser les préjugés, et Nietzsche ne se prive pas de le faire. Mais attention, c'est pas un balourd qui enforce des portes ouvertes. Il y a une petite sonorité, une petite musique nietzschéenne à entendre. Alors voilà, comment arriver à tenir à la fois le côté brutal, et il faut bien dire quelquefois même énervant, agaçant, révoltant des affirmations de Nietzsche, et il faut pas nier qu'elles le sont. Ça, c'est le coup de marteau au sens de la forge. Mais il faut bien faire attention que derrière ce coup de marteau, au sens de la forge, on a aussi le marteau du piano, qui donne une petite note. Alors il ne faudrait pas que le bruit de la forge empêche d'entendre la petite note. Philosophie de la nuance. Nous aurons l'occasion de le voir sans cesse. Donc, ce n'est pas qu'on est devant l'incertitude, devant le n'importe quoi. C'est qu'aux yeux de Nietzsche, effectivement, la vérité, comme d'ailleurs la réalité elle-même, est pleine de nuances, de contradictions, et que c'est ça qui nous agace, que nous voudrions évidemment tout de suite saisir ce qu'il en est des choses, qu'on sache enfin à quoi s'en tenir, aussi une de ses expressions favorites. Savoir à quoi s'en tenir. Ben non, on ne peut pas savoir à quoi s'en tenir. Il faut savoir jouer avec la nuance. Bon, ça c'est un propos très général sur la perspective, si je veux dire, que je vous propose, c'est celle de lire une œuvre, parce que nous sommes fidèles, me semble-t-il, à ce que Nietzsche attend de son lecteur, qu'il se cogne sur les textes, qu'il les rumine, qu'il les ressasse et qu'il tâche peu à peu d'en voir la saveur, en étant certain d'ailleurs que d'une certaine façon, il n'a jamais atteint, et heureusement, le fond des choses. Alors on va dire, c'est très gentil, mais nous lisons une œuvre. Nous n'allons pas lire tout Nietzsche, dont les œuvres écrites et publiées ne sont d'ailleurs pas si nombreuses, je vais y revenir tout à l'heure en parlant de sa vie. Nous allons lire une œuvre. Alors, est-ce que ça n'est pas en effet limitatif? Est-ce que ce n'est pas nous enfermer dans une tranche de la philosophie nietzschéenne qui ne recouvrirait pas la totalité, finalement, de son geste philosophique? Alors, à nouveau, c'est vrai que nous n'allons prendre ici qu'un livre de Nietzsche. Et ce qui est tout à fait frappant, quand on regarde l'ensemble de sa production, la production publiée, il y a énormément de livres posthumes, quand on regarde l'ensemble de son œuvre, c'est l'extraordinaire variété de ses styles. L'extrême variété de ses styles. Nous avons, la plus grande partie des styles sont des styles d'aphorisme, d'apophthegme, nous en avons un certain nombre dans Par-delà le bien et le mal, on pourrait dire que c'est sans doute la grande masse, mais nous avons affaire à des poésies. Le Zarathoustra, après tout, c'est une immense poésie, même Nietzsche voulait y voir une sorte de grand opéra symphonique, c'est une poésie où vous n'avez pratiquement même aucune référence philosophique ou théologique explicite, donc on est un peu dans un univers éthéré, mais vous avez aussi ce qu'il appelle des dissertations, la généalogie de la morale, c'est un grand texte continu qui se déploie avec des argumentations, donc on a une espèce de dissertation avec des références données, avec des conclusions provisoires, des rebondissements, etc. Bon, et puis alors on a des textes qui sont des textes de biographie, où Nietzsche se raconte sa vie, Ecce Homo par exemple, Ecce Homo, le titre tellement significatif, voilà l'homme. Effectivement, nous allons prendre un de ces textes qui n'est pas un texte poétique, bien qu'il y ait à la fin quelques poèmes, et on pourrait dire qu'en effet, nous ne prenons qu'une partie de l'œuvre, et donc une tranche. Alors, c'est vrai, comme je viens de le dire, que chaque œuvre a son style à elle, qui ne peut pas exactement se recouper avec le style d'une autre œuvre. Et malgré ceci, malgré cette réalité qui fait que le texte nietzschéen est lui-même grouillant, on ne peut pas le réduire à un style philosophique propre, poésie, prose, apophthegme, biographie, etc. Malgré tout ceci, on a affaire, et c'est aussi très surprenant, dans chaque œuvre singulière, à la totalité de la pensée de Nietzsche. On pourrait reprendre le thème de l'éternel retour. C'est toujours la même pensée qui revient toujours au même, sans être jamais la même. Nous reviendrons sur ce thème difficile de l'éternel retour, mais nous avons déjà une idée. C'est-à-dire, l'éternel retour, c'est le retour du même qui n'est jamais le même. Et ce qui est très frappant, alors, quand on lit la totalité de l'œuvre, c'est de s'apercevoir qu'au fond, cette pensée, soit dans la poésie, soit dans les narrations biographiques, soit dans les textes plus soutenus, comme le cinquième livre du Gai Savoir, cette pensée dit toujours la même chose. Mais elle le dit à travers des facettes, à travers des styles, à travers des approches qui sont chaque fois différentes. Et donc, si nous lisons Par de la mal, évidemment, nous n'avons pas les mêmes perspectives que si nous lisions Zarathoustra, qui est un texte d'ailleurs extraordinairement difficile, que j'évite en général de commenter tellement que je le trouve difficile. Mais en lisant le Par-delà le bien et le mal, nous avons une bonne entrée, je crois, dans l'ensemble de la pensée nietzschéenne. Donc nous entrons effectivement à travers ce livre-là dans la totalité de sa démarche. D'ailleurs, cela pose une question qu'on a souvent posée, qu'on a quelquefois tranchée, même souvent tranchée, à mon avis à tort. La question est de savoir, est-ce qu'il y aurait des étapes dans la pensée nietzschéenne? S'il y avait des étapes, alors il est tout à fait clair que la proposition que je viens de faire serait bancale. Ça voudrait dire que nous prenons une tranche, mais qu'avant il y a eu d'autres pensées et qu'après il y en aura d'autres. Alors on aime beaucoup découper les auteurs comme ça, n'est-ce pas? Il y a les œuvres de jeunesse, puis les œuvres de la maturité, il y a les œuvres de la vieillesse, et puis les universitaires s'amusent à découper en tranches, en disant ici il y a eu l'influence d'un tel, etc. Alors dans le cas de Nietzsche, il y a évidemment des inflexions, nous allons le voir tout à l'heure en parcourant rapidement sa vie, mais je ne crois pas qu'il y ait à proprement parler des étapes. Il y a des rencontres nouvelles, il a lu des auteurs nouveaux, il a des problèmes personnels nouveaux, il se fait à lui-même des objections nouvelles, mais en réalité, on ne va pas au-delà d'évolution normale, d'une pensée qui se qui se nourrit de ces rencontres, qui se développe à ce titre, donc qui évolue si on veut, mais sans qu'il y ait, en tout cas dans l'affaire de pour Nietzsche lui-même, me semble-t-il, de rupture absolument violente, sauf dans sa jeunesse, je vais y venir dans un instant. Au fond, ce qui fait la grande continuité, je vais le dire tout de suite, c'est que ce fut un homme malade, et constamment malade, et qu'il a connu simplement des éclairs de santé. Alors donc, on peut, à cette lumière, dire il y a d'un côté les textes qui sont plus marqués par la douleur, la souffrance, la perspective de la mort, qu'il a tout à fait bien vu, et puis des textes qui sont plus lumineux, qui sont plus éclairés, plus printaniers, plus estivaux, pour prendre des comparaisons qu'il aimait beaucoup. Donc, en lisant le « Par de la bien et mal », il me semble que, même si nous avons affaire à un style assez particulier, et d'ailleurs plutôt facile à déchiffrer que d'autres, il me semble que nous n'éliminons pas, nous n'écartons pas un certain nombre de textes, je veux dire la perspective d'ensemble de la pensée de Nietzsche. Alors, ce qui reste vrai malgré tout, c'est qu'à l'intérieur de cette perspective d'ensemble qu'on retrouve à chaque fois, il y a des insistances qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, il est clair que l'idée de l'éternel retour est infiniment plus présente dans le Zarathoustra qu'elle ne l'est dans ce texte de Par-delà bien et mal. Il est clair aussi que toutes les réflexions sur la morale, il le dit lui-même d'ailleurs dans la préface, sont beaucoup plus présentes, insistantes, dans Par-delà bien et mal, qu'elles ne le sont dans Ainsi par les Zarathoustra. Mais je crois que si on tire le fil, on s'aperçoit finalement qu'on a affaire à une pensée très cohérente. Ben, je voudrais aussi insister là-dessus. On a affaire à une pensée très cohérente. Alors, on dit souvent chez Nietzsche, il n'y a pas de système, c'est l'antisystème. C'est parfaitement vrai. Si l'on part d'un système comme le système hegelien, il n'y a pas un tel système. Nietzsche est foncièrement antisystème. Mais si l'on veut dire que cette pensée n'aurait pas de cohérence, alors je crois qu'on se trompe. Elle est systématique en ce sens qu'elle ne dit pas un jour oui, le lendemain le contraire. C'est une pensée cohérente, c'est-à-dire que quand vous tenez le fil, vous pouvez, en le tirant à bout, développer l'ensemble de la pensée nietzschéenne. Donc c'est pas une pensée systématique au sens d'un système hegelien où tout se tient, mais c'est une pensée cohérente et qui n'est pas par conséquent la pensée d'un dilettante qui vagabonde à droite et à gauche, il y a à condition de ruminer et de ne pas conclure trop vite, on s'aperçoit, je crois, assez bien d'une très grande cohérence de cette pensée. Voilà, alors ceci posé, je voudrais conclure ce premier point en vous invitant à voir un texte, d'acheter un texte, puisque nous allons lire des textes. Si vous n'avez pas de texte, je n'en donnerai pas par écrit, je ne donnerai pas de polycopie, pour la bonne raison d'ailleurs que nous n'allons lire qu'un certain nombre de textes, et il me semble que vous avez avantage, intérêt, et que vous trouvez du plaisir à lire bien d'autres textes que nous ne lirons pas. Alors, là, évidemment, vous pouvez regarder sur Internet, vous avez Nietzsche.org, Nietzsche source.org, tous les textes en allemand, vous avez aussi les traductions, mais la plupart de ces textes se trouvent dans des livres de poche. Alors, sur la petite fiche que vous pouvez trouver ici à l'entrée, où j'annonce le cours, je vous donne un certain nombre de références. Ça ne coûte pas très cher. Puis, sur des textes, on peut aussi griffonner, souligner, revenir sur ces textes. Donc, je vous invite vraiment, pour les prochaines fois, à avoir des textes, à avoir des petits livres de poche qui vous donnent par-delà bien et mal. Alors, voilà, le problème, c'est toujours celui des traductions, si vous ne lisez pas l'allemand. C'est celui des traductions. Alors, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'elles sont toutes mauvaises et toutes bonnes. Elles sont bonnes dans la mesure où elles nous donnent accès au texte de Nietzsche, malgré tout. Elles sont toutes mauvaises parce que, évidemment, l'allemand de Nietzsche est un allemand extrêmement riche. Il n'invente pas des mots à la façon de Heidegger, mais enfin, il est capable de donner une sonorité, une teinture qu'il est à peu près impossible de reproduire en français. Mais je voudrais signaler quand même une grande tentative, qui est d'ailleurs pratiquement achevée maintenant, qui a été lancée par deux universitaires italiens dans les années 70, qui sont Colli et Montinari, et qui ont fait une grande édition en plusieurs langues, d'abord évidemment en allemand, des textes de Nietzsche, bon, parce qu'ils avaient été surchargés de toute espèce d'alluvions inutiles, donc ils ont commencé par faire une grande édition en allemand du texte de Nietzsche, et ils se sont attelés avec des équipes évidemment d'universitaires à des traductions en français, en italien, en espagnol, en allemand, enfin toute espèce de langue. Et c'est évidemment cette édition qui a été publiée chez Gallimard, qui je crois fait référence, et en général je crois qu'on peut vraiment s'y fier, elle est assez bonne, sauf la traduction du Zarathustra faite par ce cher monsieur de Gandillac, qui s'amuse à faire de la poésie médiévale. Bon, ça fait un texte totalement illisible et même ridicule. Donc on peut prendre cette traduction, cette édition, elle est publiée chez Gallimard, hein, je vous l'ai marqué ici, Folio Essai, qui est la traduction, qui reproduit la traduction des œuvres philosophiques complètes. Et celle-ci, je crois, est assez bonne. Enfin, si vous pouvez comparer sur l'allemand, ce serait une bonne chose. Alors, je ne vous ai pas donné non plus de bibliographie, j'en donnais ici très très peu, ben, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Nietzsche écrit, ben, c'est quand même pour être lu. Donc, plutôt que d'aller voir Tartampion qui a écrit 800 pages sur Nietzsche et qui peut-être n'a pas compris vraiment de quoi il s'agit, lisez donc Nietzsche, n'est-ce pas? Bon, si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours évidemment aller voir des auteurs. Mais je crois qu'il faut commencer, il faut arrêter la mauvaise habitude qui consiste à dire « oui, je ne connais pas un auteur, ben, donnez-moi un livre sûr ». Mais lisez, hein, Platon, Aristote, etc., ils écrivent pour avoir des lecteurs. Alors ensuite, on peut trouver dans des dictionnaires, dans des encyclopédies, des introductions. Alors, je vous signale en particulier dans l'histoire de la philosophie publiée chez Gallimard, en 3 tomes. Dans le 3e tome, il y a un excellent chapitre de Michel Haar, H2AR, qui était un universitaire, professeur en Sorbonne, qui est mort malheureusement assez jeune, et qui fait là, peut-être 40 pages, un peu plus, une excellente introduction à la pensée nietzschéenne, voilà, avec beaucoup de finesse, de pénétration, et je crois de justesse. Bon, il est un peu marqué par Heidegger, mais enfin, c'est tout de même très bon. Alors, je cite également dans ce petit livre ici, dans ce petit feuillet, son livre qui s'appelle « Nietzsche et la métaphysique », bon, mais qui est évidemment plus lourd. Vous pouvez regarder dans les encyclopédies, Universalis, il y a de très bons textes d'introduction à Nietzsche, puis j'ai écrit quelques ouvrages, je mets ici Nietzsche l'intempestif. Encore une fois, ne vous fiez pas trop aux interprètes, mais lisez plutôt les textes mêmes de Nietzsche. Voilà, alors ceci dit, je vais situer l'œuvre dans la vie de Nietzsche, mais je voudrais, puisqu'on est dans ces références biographiques, vous dire les textes que nous allons lire. Nous n'allons pas lire d'un bout à l'autre par de la Bielmann, nous allons arrêter sur certains textes. Alors, je vous signale les textes que nous allons prendre. D'abord, nous allons regarder la préface, qui est un texte un peu postérieur, mais tout de même très éclairant. Alors, le livre se présente, vous l'avez vu, sous forme de 7 parties. Bon, c'est un peu des parties valises, c'est-à-dire que, oui, il y a plutôt la critique de la philosophie, plutôt critique de la morale, ou plutôt critique de la religion selon les titres. Ben, il faut pas trop se fier aux titres, ça ne fait pas vraiment des chapitres cohérents, il y a beaucoup de choses dans chacun des chapitres. Enfin, en gros, on va commencer par une critique de la philosophie, qu'il appelle la philosophie dogmatique, et nous allons lire là les paragraphes 1 et 2. Les 2 premiers aphorismes, qui sont de très beaux textes, puis les aphorismes 19 à et 21. 1, 2, 19, 21. Puis ensuite, on peut considérer cela comme une critique de la religion, les paragraphes 36 et 59. Puis le paragraphe, l'aphorisme 46. L'aphorisme 201, 262. 195, je ne suis pas tout à fait l'ordre, vous verrez pourquoi. Puis, alors, ces grands textes sur la morale aristocratique et la morale servile, les 259 et 260. Et nous, tout de même, nous aborderons le thème de l'éternel retour avec le paragraphe 56 et puis l'aphorisme très énigmatique qui est le dernier, le 295, où Nietzsche parle de ce petit dieu visiteur qu'est Dionysos. Dionysos, que vient faire Dionysos dans cette affaire? Ben, nous essaierons de voir ce qu'il en est. Voilà, donc, voilà les textes. Je pense que ce n'est pas la peine de répéter, je le dirai à chaque fois. Et donc, nous avons des séances continues, sauf le 30 octobre, où il y a une pause, je crois, pour la Toussaint, jusqu'au 18 novembre, si on est bien d'accord, sauf imprévu. Est-ce que là-dessus, vous auriez... Bon, puisque j'en suis aux interprètes, je reviendrai sans doute sur ce point. J'ai tout à l'heure fait allusion rapidement à Heidegger. Bon, il faut savoir que Heidegger est une référence absolument décisive dans la reviviscence, dans la prise au sérieux de la pensée nietzschéenne. Alors, je laisse de côté l'immense massif de Heidegger et les polémiques autour de son œuvre que vous connaissez, son antisémitisme, son nazisme. Le fait est que, très exactement pendant la période triomphante du national-socialisme, c'est-à-dire de 1933 à 1940, Heidegger, toute affaire cessante, a fait des séminaires sur Nietzsche. Alors, pour quelles raisons? Très compliquées. C'est intéressant, Jean-Pierre Fay a fait des livres là-dessus avec des hypothèses un peu fantaisistes, mais enfin pas totalement fausses. Le fait est que après la guerre, Heidegger a publié deux gros volumes qui sont le résultat de ses séminaires et qui ont été traduits en français dans les années 55-60 à peu près, deux volumes tout à fait intéressants. Et on doit à Heidegger d'avoir élevé Nietzsche au rang des grands métaphysiciens. On pourrait dire que, avant Heidegger, je dis ces choses en gros, on considérait Nietzsche soit comme un immoraliste, pas très sérieux, un peu à la sauce gidienne, si vous voulez, jouir sans entrave, etc. Ou un poète, c'est intéressant, ben, bon, un Baudelaire, un Rimbaud, évocateur, comme ça, des couchers de soleil, de la mer, très bien, mais enfin bon, sans plus. Mais pas vraiment comme un philosophe. Peut-être à cause du discours que je disais, le type de langage, qui ne fait pas très sérieux, évidemment, par rapport à la phénoménologie d'esprit de Hegel ou la grande logique, ça paraît un peu faible. Et c'est tout de même Heidegger qui a dit, ah non mais attention, nous avons affaire là aux grands métaphysiciens anti-métaphysiciens. C'est-à-dire qu'avec Nietzsche, c'est la métaphysique qui est abattue. La métaphysique dualiste platonicienne. Nous reviendrons évidemment sur ce point. La thèse, ça c'est la thèse massive, la thèse sous-entendue, c'est qu'il a cru, ce brave Nietzsche, en mettre fin à la métaphysique, mais en réalité, vous voyez tout de suite, qui a mis fin réellement à la métaphysique? C'est moi, Heidegger. Mais je ne m'aimais pas dans ceux de Nietzsche. Nietzsche, il a entrevu qu'il fallait dépasser la métaphysique, il a raté son affaire. Mais moi, Heidegger averti, je vais jusqu'au bout. Alors évidemment, ça donne de l'importance à Nietzsche, parce que, bon, Heidegger le prend comme un grand vis-à-vis, le prend comme le grand vis-à-vis de toute l'histoire de la métaphysique, et quoi qu'il en soit par ailleurs de la pensée de Heidegger, il est incontestable que son interprétation est tout à fait magistrale. Et donc, malgré tout ce qu'on peut dire sur et contre Heidegger, qui était un véritable salaud, ça il faut bien dire, ça, c'est certainement à lui, en partie, que nous devons aujourd'hui de lire Nietzsche comme nous le faisons, comme un des grands philosophes. Plus personne aujourd'hui, à peu près, sauf quelques imbéciles, contesterait. Voilà, donc je voulais signaler ce point. Je reviendrai peut-être sur son interprétation, qui en gros, c'est celle que je viens de dire. Bon, donc si vous avez l'occasion de tomber sur un texte de Heidegger concernant Nietzsche, évidemment lisez-le, mais en ayant un regard critique, parce que dans son interprétation de Nietzsche, il y a autant de Heidegger, sinon plus, que de Nietzsche. Bon, donc le tri n'étant pas facile à faire, mais c'est sûr qu'il donne une dimension extraordinaire au texte de Nietzsche sur le nihilisme, sur etc. Bon, alors je vais dire quelques mots maintenant sur la vie de Nietzsche, parce qu'elle est tout à fait capitale pour comprendre sa pensée. Alors je fais ça évidemment très très rapidement et certainement trop rapidement. Alors Nietzsche est né en 1844 en Saxe, près de Lützen. Et il est né d'une famille luthérienne, protestante, luthérienne, piétiste. Son père était pasteur protestant de son village, et ses deux grands-pères l'étaient aussi. C'est vous dire que le poids du christianisme sur ce malheureux enfant a été évidemment décisif. C'est très beau, le mariage est pasteur, mais ça donne quelquefois des produits comme ce Friedrich Nietzsche. Donc, famille protestante, piétiste, c'est-à-dire un protestantisme vécu, piétisme. On voit tout de suite, on insiste sur la piété, sur le sentiment intérieur, sur l'expérience religieuse. Et il n'y a pas de doute que Nietzsche a été un croyant convaincu. Il y a même de très beaux poèmes au moment de sa confirmation à 12-13 ans sur Dieu. Mais dès qu'on insiste sur l'intériorité, la sentimentalité, il faut évidemment un débarrage. Et ce piétisme, en tout cas tel que Nietzsche l'a connu, insiste beaucoup sur la discipline, sur la rigueur de la morale. On voit très bien, pour éviter les débordements du sentimentalisme, il faut se donner des remparts. Et le christianisme que Nietzsche a vécu, il est ce combiné d'intériorité réelle, donc ce n'est pas une religion de l'hypocrisie et de la façade, c'est une religion, je crois, pour autant qu'on puisse en juger, vraiment vécue, mais c'est une religion extrêmement rigoureuse. Et Nietzsche a été élevé, ça c'est tout à fait clair, d'ailleurs on le voit bien dans sa pensée, à l'intérieur d'un système de discipline morale stricte. Donc, pasteur de tendance piétiste, son père est mort lorsqu'il avait 4 ans. Et cette expérience, on le voit dans ses textes, l'a certainement beaucoup marqué. Du coup, il a vécu avec sa mère et sa sœur Elisabeth. Donc, il a perdu son père à 4 ans, une méningite, tuberculeuse, quelque chose comme ça. Enfin, il est mort pratiquement subitement. Il va donc être élevé par des femmes, et c'est un contexte extrêmement important. Il va toujours avoir le plus grand respect pour sa mère, et il va vivre une grande partie de sa vie sous la coupe de sa sœur. Sa sœur, nous aurons l'occasion d'y revenir. Parce que sa sœur va se marier en Argentine plus tard avec un antisémite, et Nietzsche va lui écrire des lettres furieuses contre ce mariage. Mais on pourrait dire qu'elle va se venger, là j'anticipe un peu, puisque après la mort de Nietzsche, c'est elle qui va chercher à faire publier ses œuvres et qui, dit-on, les a un petit peu émasculées. Et c'est elle aussi qui a contribué à faire valoriser Nietzsche aux yeux des idéologues du national-socialisme. Bon, je ferme cette parenthèse. Il a donc vécu avec sa sœur Elisabeth, avec ses détentes, mais il a été envoyé au grand collège de Forta, P-F-O-R-T-A. Il sera un peu l'équivalent du collège de la Flèche dans l'Ancien Régime, où elle est un peu, j'allais dire tous les gens bien, l'élite allemande. Grand collège à la prussienne, un peu, à nouveau, très rigoureux, discipline, militaire, études classiques, grec, latin, bien entendu, mais aussi grande ouverture aux mathématiques et aux sciences modernes. Donc, le paradoxe des deux. Ensuite, Nietzsche va aller faire des études à Bonn. des études de philologie et de théologie à partir de 1864. Il est, je crois, remarquable qu'il n'est pas un philosophe de métier, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu comme profession d'être enseignant de philosophie, à la différence de Hegel ou de Schopenhauer, etc. Il va donc aller en 1864 à Bonn, et là, il va être marqué par deux chocs. Alors, pour le coup, c'est là qu'il y aura une rupture, mais il a 20 ans, il n'a encore rien écrit. Deux chocs, l'un qui va venir du côté de la théologie, l'autre qui va venir de sa rencontre avec la pensée de Schopenhauer. Avec la théologie. Donc, monde protestant, et il va rencontrer là, il va lire les livres de David Friedrich Strauss, qui est un exégète libéral qui a écrit dans les années 1835-40 plusieurs livres sur des vies de Jésus, un peu comme Renan plus tard. Mais c'est tout de même Strauss qui a introduit. Et surtout, ce Strauss est très marqué par le rationalisme des Lumières et qui va introduire l'idée que les textes bibliques, notamment du Nouveau Testament, puisqu'on se spécialise du Nouveau Testament, sont des textes mythologiques. Alors attention, ça va introduire en théologie, en exégèse, la grande veine de la démythologisation, on connaît le nom de Rudolf Bultmann, mais la notion de mythologie pour Strauss est une notion négative. Aujourd'hui, nous disons le mythe, c'est une fin, après Ricoeur et bien d'autres, c'est une façon imagée, narrative, de dire des choses fondamentales qu'on ne pourrait pas dire autrement. Donc, pour nous aujourd'hui, et après Bultmann, nous disons, ben oui, des mythes, disons, je sais pas, le récit de la Genèse, c'est pas un mythe au sens où c'est une histoire à dormir debout, un conte de fées qu'on raconte aux petits enfants, le chaperon rouge. C'est une façon de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement. Donc, c'est plein de substance. Dans le cas de Strauss, ça n'est pas du tout ça. Le mythe, c'est une fantasmagorie. C'est une imagination frauduleuse. C'est une invention faite par les prêtres, par qui vous voudrez, pour tromper le bon peuple. Et donc, c'est avec cela qu'il va lire le Nouveau Testament, et évidemment le démystifier au sens où il va dire, ce que reprend d'ailleurs un peu Bultmann, il montait aux cieux, ridicule, j'ai jamais vu quelqu'un monter au ciel, etc. Les miracles, c'est pour endormir les peuples. Bon, il est un peu plus fin que ce que je ne dis. Mais c'est quand même ça. Et Nietzsche va être évidemment extrêmement ébranlé par la lecture de Strauss. Il va même consacrer la première considération intempestive, c'est des petits textes qu'il écrit qui sont les débuts de son œuvre, la première considération intempestive à David Strauss, qui est un texte méchant. Parce que à la fois Nietzsche rend hommage à Strauss et en même temps lui dit c'est très beau de démystifier le Nouveau Testament, mais si c'est pour faire de la science un mythe, vous n'avez pas avancé beaucoup. Donc c'est un texte intéressant parce qu'il est anti-scientiste et anti-positiviste. Et c'est une critique assez intéressante, à nouveau très méchante et certainement en partie injuste. Bon, donc première influence tout à fait décisive qui va ébranler, on peut dire, la foi de Nietzsche. Sur ses fondements. Donc, vous voyez, c'est pas seulement il critique l'Église ou les curés ou je sais pas quoi, parce que nous allons voir au contraire qu'il a une grande admiration pour la tradition chrétienne, notamment catholique. Mais sur la base des Écritures, là, les choses vacillent. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des mythes? Et nous le retrouverons à propos de sa pensée sur Jésus. Bon, donc, certainement que la crise religieuse, là, de ce garçon de 18-20 ans, a été extrêmement, extrêmement profonde. Mais elle a été doublée d'un autre choc, disons plus philosophique, c'est qu'il a rencontré un peu par hasard le livre de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, dont je reparlerai, Le monde comme volonté et comme représentation. Schopenhauer, c'est 1788-1860. Donc Nietzsche ne l'a pas rencontré personnellement. Schopenhauer était professeur de philosophie à Berlin. C'était le grand rival de Hegel. Hegel faisait salle pleine et le pauvre Schopenhauer parlait devant des salles vides. Du coup, il a quitté Berlin pour une autre ville. Mais le contact avec Schopenhauer, évidemment, je reviendrai plus longuement sur Schopenhauer parce qu'il est très important, c'est le contact avec une pensée foncièrement pessimiste. Le monde n'a pas de sens. Et nous vivons foncièrement dans l'illusion du sens. Nous sommes une espèce de mouche qui s'imagine le centre du monde, alors qu'elles ne sont évidemment pas. C'est une philosophie qui n'est pas très compliquée, mais qui est un rare pessimisme, une noirceur tout à fait profonde, tout à fait radicale. Et au contact de cette lecture, que Nietzsche va avaler d'un coup, c'est évidemment l'effondrement de toute sa structure intellectuelle qui se trouve là. Et on pourrait dire que Nietzsche va passer sa vie intellectuelle à essayer de se désengluer du pessimisme schopenhauerien. C'est une bataille constante, d'ailleurs en même temps qu'une bataille contre le christianisme. Et là, nous tenons les deux clés de la pensée. Il ne va jamais cesser de parler avec le christianisme et de le discuter, mais il ne va jamais cesser non plus d'essayer de s'arracher à ce pessimisme de Schopenhauer. Y arrivera-t-il? Ça, c'est une question que nous pouvons poser. Donc voilà, deux contacts décisifs qui vont évidemment marquer tout son itinéraire intellectuel. Donc on pourrait dire que cette jeunesse, elle est marquée par un déracinement, un double déracinement, déracinement par rapport à la foi chrétienne, et déracinement par rapport à un rationalisme un peu philosophique. Alors, on pourrait dire qu'à partir de ce moment-là va commencer sa vie professionnelle et, pourrait-on dire, sa maladie. Il va d'abord compléter ses études pendant une année ou deux à Leipzig avec de très grands philologues, mais il va commencer, dès les années 69-70, à enseigner la philologie à Bâle. La philologie à Bâle. Il va même prendre la nationalité suisse. Il doit d'être trouvé très jeune une chaire à Bâle au professeur Ritschel, grand philologue qu'il avait connu à Leipzig. Bon, donc, professeur de philologie, étude des mythes grecs, étude des tragiques grecs, il connaît très bien, plus d'ailleurs que du monde romain. Non pas philosophie, il la rencontre à travers les tragiques grecs, il la rencontre à travers les pré-socratiques, et en même temps, c'est une chaire à Bâle, mais vous voyez le nombre d'étudiants qu'on pouvait avoir en philologie grecque à Bâle. Le brave homme parlait devant 3-4 étudiants, jamais plus. Et ça va être aussi une des clés, parce que cet homme va toujours souffrir de sa solitude. Car la guerre de 70 se déclare, Nietzsche est engagé comme infirmier brigadier. Le premier malade qu'on embarque dans l'ambulance, c'est un certain Friedrich Nietzsche. Donc il ne fait pas long feu, si je puis dire, dans les lignes, il est rapatrié, et c'est le début de ses maladies. De ces maladies qui vont le marquer terriblement, quelles maladies, on ne sait pas très bien, ça se traduit par des maux de tête, ça se traduit par des diarrhées, ça se traduit par des spasmes, ça se traduit par des dépressions fortes. Ça va se traduire aussi par un progressif aveuglement. Il va peu à peu perdre la vue. En tout cas, à certaines périodes, il ne voit plus, ou très mal. Alors, vous voyez les conséquences. Nietzsche n'est pas un homme de bibliothèque, ce n'est pas un rat de bibliothèque. Non pas qu'il n'ait pas aimé les bibliothèques et les livres, mais parce qu'il ne pouvait pas les lire. Alors ça, c'est aussi une clé très importante, parce que quand il cite des philosophes, les 3/4 du temps, il ne les a pas lus. Alors évidemment, l'universitaire à grosse aboirie, on dit, il parle de Spinoza, je ne connais rien. Et de fait, mais il y a deux choses à remarquer. D'un côté, il a une très profonde intuition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu beaucoup de choses pour qu'il sente de manière intuitive l'axe d'une pensée. Et puis deuxièmement, il a eu quand même un certain nombre d'amis qui lui lisaient des textes, comme on fait souvent auprès des aveugles. Donc il avait une lecture, mais évidemment, c'est pas la même chose de lire soi-même et d'entendre lire. Enfin, il avait quand même une certaine connaissance. Mais on peut retenir ce point, à savoir que ce n'est pas un homme de bibliothèque. Alors, il va être obligé de se retirer de sa chaire à partir des années 71-72. Mais il va quand même écrire un premier livre qui s'appelle « La naissance de la tragédie ». C'est un livre qui va faire grand bruit. parce que Nietzsche met par terre, dans ce texte difficile, mais tout à fait intéressant, toute l'interprétation courante de la tragédie grecque. Et évidemment, les vieux barons de la philologie allemande vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce Blanbec qui a à peine démarré ses cours et qui vient faire la leçon à tout le monde ?» Et cela va encore le marginaliser. Alors, c'est un très grand texte, mais un peu fou, un texte de jeunesse, un peu fou. Naissance de la tragédie selon l'esprit de la musique. C'est le titre complet. En même temps que Nietzsche est à Bâle mais se repose, il va faire la connaissance de Richard Wagner, qui vit à Tribschen, c'est-à-dire non loin de Bâle. Alors, là encore, c'est une rencontre décisive avec Wagner et avec Cosima, qui est la fille de Liszt. Une des filles de Liszt, parce qu'avant de devenir abbé, on peut porter sur les dames. Donc, Cosima Wagner. Mais surtout Wagner. Alors, en deux mots, c'est une rencontre absolument décisive. On pourrait dire des deux côtés, mais surtout du côté de Nietzsche. Nietzsche a une grande admiration pour le génie musical de Wagner. Mais en même temps, il va s'imaginer qu'il sera le philosophe de Wagner, qu'il sera celui qui lui donne ses idées. De son côté, Wagner a certainement une grande admiration pour Nietzsche, il n'y a pas de doute là-dessus, au moins pendant un certain temps, mais regarde un peu ce bambin de haut. Et Wagner est suffisamment assuré de son génie pour ne pas avoir à dépendre de ce blanc-bec. Donc il y a le ver dans le fruit dès le départ. Wagner va être aussi, aux yeux de Nietzsche, un père de substitution. À 4 ans, il a perdu son père. Wagner va être à la fois dans l'admiration de Wagner et il va se mettre sous l'aile de Wagner. Au point que quand Wagner va mourir en 1883, Nietzsche est à Venise, il est en train de terminer le Zarathustra et il écrit à son ami, je crois Peter Gast, peu importe, il lui dit « La mort de Wagner me permet enfin d'accoucher de mon Zarathustra. » Comme si, n'est-ce pas, la vie de Wagner l'empêchait d'être lui-même père de son œuvre. Et c'est la mort de Wagner qui, dit-il, le libère de son œuvre. Alors, il va y avoir beaucoup de rencontres. Nietzsche est un grand musicien. Il a d'ailleurs écrit des pièces de piano. Il a même écrit des messes, des kyriés. On peut les trouver sur des disques maintenant, sur des DVD. Ça fait un peu du Schumann. Bon, donc il rivalise un peu avec Wagner, mais la rupture va venir à partir du moment où Wagner va s'installer à Bayreuth. Premier festival de Bayreuth en 1876. Alors, entre-temps, Nietzsche a publié non seulement La naissance de la tragédie, mais dans les années 73-74, ses considérations intempestives dont j'ai parlé. Considérations intempestives au nombre de 4, l'une sur David Strauss, la seconde forte intéressante sur l'histoire, il y a le fameux thème de l'histoire monumentale, etc. La troisième sur Schopenhauer éducateur, où Nietzsche dit sa dette à Schopenhauer. Et la quatrième, qui va sortir un peu plus tard, en 75-76, sur Wagner. Alors c'est très intéressant de lire cette quatrième intempestive, parce que c'est le moment du conflit latent avec Wagner. Donc il le couvre de fleurs, mais si vous regardez bien les fleurs, elles sont pleines d'épines. Ah, ils sont très grands, c'est une musique absolument insupportable, très amusant, si on veut. Alors, la rupture va venir de Bayreuth, et notamment de Nietzsche, parce qu'il ne supporte pas le culte commençant à l'égard de Wagner. Et c'est vrai qu'il y a un culte qui s'est développé autour de Wagner. Donc, il va rompre avec Wagner. Il noue des amitiés profondes avec un certain nombre de gens. J'ai fait allusion tout à l'heure à Peter Gast, à Paul Rey, qui est un psychologue, qui va beaucoup l'inspirer, avec lequel il va beaucoup parler. Mais sa maladie s'aggrave et il est obligé de demander un congé à l'université de Bâle. Et la dernière rencontre avec Wagner, je crois, c'est de 1876. Alors Nietzsche s'enfonce dans la maladie qui va l'obliger à des déplacements permanents. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas, il mange très peu, il a toujours mal à la tête, il ne supporte pas le climat, donc il va se balader pratiquement jusqu'aux années 82-83, entre l'hiver, la Côte d'Azur, Nice en particulier, on a toujours d'ailleurs le souvenir de sa présence, Gênes, la Sicile de temps en temps, et l'hiver, en gros, s'il se maria. Et il fait la navette entre les... Donc c'est un itinérant. Et dans ces années-là, se passe ce qu'il appelle, dans le Humain trop humain, sa descente aux enfers. Sa maladie. Une maladie dont nous verrons qu'il parle sans arrêt dans ses textes et qui sont absolument... maladie qui est un élément tout à fait fondamental. Alors, n'empêche qu'il continue à écrire, mais voilà aussi une des clés de son écriture fragmentée. Vous voyez bien que c'est un homme qui n'est pas de bibliothèque, on ne pouvait pas rester devant son ordinateur pendant des heures. Donc il écrit en marchant. Il a besoin de marcher. Donc c'est une écriture de marcheur. Et essayez d'écrire en marchant, vous ne pouvez pas faire des dissertations, vous faites des phrases de deux ou trois lignes. Et ce qui est pire, c'est qu'il faisait ça sur des petits papiers, et comme il voyait très mal, il écrivait sur son écriture, ce qui fait la joie des interprètes qui s'amusent à détecter les textes. Mais ce qui fait que beaucoup de textes, on ne sait pas exactement quand ils ont été écrits, et ils sont peu déchiffrables. Voilà. Là aussi, je crois, une façon d'approcher ces textes, et je crois qu'il ne pouvait pas écrire des pages et des pages à la suite. Bon, donc il va publier un certain nombre de ses textes dans Humain trop humain. C'est vraiment la période de déconstruction du bonhomme. Donc c'est des textes très marqués par le rationalisme et la critique, 1879 représentant certainement le moment le plus sombre de la maladie de Nietzsche. Il publie le deuxième volume de Humain trop humain, et il publie en 1880 Le voyageur et son ombre. Le voyageur et son ombre. Donc au milieu de ses déplacements, j'ai dit tout à l'heure... L'été dans des pays ensoleillés, il aime beaucoup la Méditerranée, et l'hiver à Sils Maria. 1880-81, Aurore, sous-titre Pensée sur les préjugés moraux. Aurore. Alors, la métaphore chronologique du jour et de la nuit est évidemment tout à fait centrale. La nuit, le jour, vous voyez, c'est aussi l'éternel retour. Tous les matins reviennent. Le midi, le soir, la nuit, ils reviennent régulièrement, mais ils ne reviennent jamais au même. Chaque matin est un matin, c'est le même matin, et en même temps, c'est jamais le même matin. Alors, on pourrait dire que cette scansion du temps est aussi une scansion de la pensée nietzschéenne. De la nuit qu'il a vécue, apparaît l'aurore. Et le grand midi, qui va être la fameuse... Offenbarung, la fameuse révélation de l'été 81 à Sils Maria. Nous lirons ces textes. Ce jour-là, auprès du lac, dans ce paysage magnifique, Nietzsche a l'intuition, Offenbarung, la révélation de la beauté infinie du monde. Que la seule chose à faire devant ce qui est, c'est de dire oui à ce qui est tel que c'est. Philosophie de l'affirmation, grâce à laquelle Nietzsche va penser s'émanciper de la glue pessimiste schopenhauerienne. Le monde vaut qu'on lui dise oui, de manière inconditionnelle. Ça, c'est la grande révélation de Sils Maria. Et on pourrait dire que la suite de l'œuvre, la suite des œuvres, ne va être que l'explicitation de cette révélation. Alors, je vais vite. Le gai savoir, 81-82. Le gai savoir, savoir fröhliche Wissenschaft, une science joyeuse. On n'est pas dans le climat de la noirceur schopenhauerienne. Ainsi parlait Zarathoustra, au moins les deux premières parties en 83, qu'il écrit à Nice. 83, la mort de Wagner, comme je disais. 84, la troisième partie de Zarathoustra, également écrite à Nice, et la quatrième partie, en 85, à Menton. 84-85, notre texte, par-delà bien et mal. 87, la généalogie de la morale. Vous voyez donc une cascade de textes, n'est-ce pas, très rapide, chaque année. Bon, ce n'est pas des textes extraordinairement volumineux, enfin, tout de même, c'est des choses importantes. Donc, 87, généalogie de la morale, comme généalogie de la morale, et en 88, il arrive à Turin, il publie au mois d'août le cas Wagner, vous voyez, le cas Wagner, encore en 88, très méchant, mais très intéressant aussi. Le crépuscule des idoles. L'antichrist. Donc, vous voyez, Wagner, l'antichrist, christianisme. Là, il n'en a jamais fini de s'expliquer avec les deux, avec Wagner, Schopenhauer et l'antichrist. Ecce Homo. En décembre, Nietzsche contre Wagner. À nouveau. Et début janvier 89, eh bien, on assiste à cet effondrement mental à Turin. Vous avez une très belle place avec une plaque qui vous rappelle cet événement. Nietzsche, dans sa petite chambre, voit tout d'un coup un cocher, c'était encore l'époque des cochers, un cocher battre son cheval. Et cet homme plein de sentiments, de sentimentalisme, à la piété, descend se jeter au cou du cheval pour éviter les coups et les recevoir lui-même. Et pratiquement... ce qu'on appelle l'effondrement mental, il perd la raison. Il est rapatrié en Allemagne. Il y a une très, très belle page de Malraux sur la traversée du Simplon en tunnel en chemin de fer. Et il va aller à Weimar auprès de sa mère. Enfin, on le soigne, on n'arrive pas très bien à le soigner. Il va rester pratiquement pendant 10 ans dans un état d'hébétude. Souriant, pas du tout violent, jouant du piano, mais sans aucun contact de la parole, et il va s'éteindre en août, 25 août, je crois, 1900. Voilà, donc une dizaine d'années de prostration, sur laquelle on a d'ailleurs très très peu d'éléments de clarification. Donc voilà, une vie, je résumerai ainsi, une vie à la fois de solitude, une vie de souffrance, parce qu'il a été finalement malade tout le temps. 90, c'est un peu une période d'amélioration, d'où cette frénésie de publication, mais très grande fragilité en même temps. Solitude, cet homme ne s'est jamais marié. Il a tenté de se marier à plusieurs reprises avec un certain nombre de personnes, notamment Lou Andrea Salomé. Mais évidemment, Lou Andrea Salomé n'était pas faite pour lui, et il s'est rendu compte, il y a d'ailleurs un très beau texte de lui dans le Zarathoustra, qu'il n'était pas fait pour le mariage et qu'il était appelé à la chasteté. Un texte d'ailleurs assez étrange et très très beau. Donc solitude. Solitude aussi parce que, vous voyez, il n'a pas d'enseignement, il écrit des livres, mais personne ne les lit. Évidemment, aujourd'hui, nous, Nietzsche, il est dans tous les halls de gare, n'est-ce pas ? N'importe qui lit du Nietzsche. Mais personne ne le lisait à la fin de sa vie. Je crois qu'il y a un professeur danois qui fait un cours sur lui, il est émerveillé, il envoie des lettres admiratives en disant « continuez, continuez ». Mais personne ne le lit. Alors là encore, je crois que ça nous donne une certaine idée de sa prose. Quand vous êtes un écrivain connu, vous faites attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des répercussions. Quand vous êtes tout seul, et en même temps convaincu, comme nous allons le voir, d'avoir des choses essentielles à dire, mais que personne ne les entend. Vous vous mettez à crier. Voyez ? Voilà le coup de marteau à nouveau. Personne ne m'entend. Dans Ecce Homo, il y a un chapitre qui s'appelle « Pourquoi j'écris de si bons livres ?» Je fais ma publicité, moi. Pourquoi j'écris de si bons livres ? Sous-entendu que personne ne lit. Alors, voilà, tout seul, il hurle. Et nous le lisons en disant « Monsieur, il est dingue ce type. » De fait, il est un peu dingue, mais... Il faut bien se rendre compte de ça, n'est-ce pas ? C'est qu'il parle pour personne. D'ailleurs, le sous-titre du Zarathoustra, c'est un livre pour tout le monde et pour personne. Hein ? Tout le monde et personne. Ça, tout le monde peut le lire, mais comme nous allons le voir dans un instant, tout le monde n'a pas les oreilles voulues pour entendre. Voilà, on va faire une petite pause, si vous voulez bien, 5-6 minutes. Voilà, nous continuons notre... cette introduction. D'habitude, au début de chaque séance, nous prenons un temps de questions, si vous en avez. Je préfère parler tout, tout au long, mais vous pouvez toujours m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires, mais je préfère ne pas trop interrompre, mais laisser un temps au début de chaque séance, vous aurez pu ruminer entre-temps ce que j'ai dit et peut-être avoir des questions. Donc on prend toujours un petit temps de 5-10 minutes selon les questions que vous avez pour revenir sur la séance précédente. Bon, alors je continue en venant maintenant au texte, mais je voudrais lire un paragraphe tout de même du part de la BNM, le paragraphe 41, qui est un texte étrange, mais tout de même très caractéristique de la solitude et de la solitude assumée de l'homme Nietzsche. Hein. Voilà, je le lis. Il faudrait faire un commentaire assez long, mais je crois qu'on voit très bien ce qu'il veut. Il importe de se prouver à soi-même qu'on est destiné à l'indépendance et au commandement, et cela au bon moment. On ne doit pas éluder l'obligation de faire ses preuves, bien qu'il n'y ait peut-être pas de jeu plus périlleux et qu'en définitive, il s'agisse seulement de preuves dont nous sommes nous-mêmes les témoins et les seuls juges. Donc, faire de sa vie une épreuve, une expérimentation, mais qu'on est les seuls à pouvoir juger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication de l'un à l'autre. Mon expérience sera toujours la mienne. Je pourrais en parler, c'est d'ailleurs ce que fait Nietzsche. Il n'en restera pas moins que cette expérience sera intransmissible. L'expérience de chacun est l'expérience de chacun. Et elle est essentielle pour lui. Ne s'attacher à aucune personne, fût-ce la plus aimée. Toute personne est une prison et aussi un refuge, qui n'est pas très personnaliste ni communautaire. Ne s'attacher à aucune personne. Ne s'attacher à aucune patrie, fût-elle la plus souffrante et la plus démunie. Et il est déjà moins difficile de détacher son cœur d'une patrie victorieuse, l'Allemagne de 70. Ne s'attacher à aucune compassion, s'adressa-t-elle à des hommes supérieurs dont un hasard nous révéla le rare mérite et l'abandon. Ne s'attacher à aucune science, nous attira-t-elle par la promesse des découvertes les plus précieuses, des découvertes qu'elle semble nous souligner réservées. Par parenthèse, il faut toujours faire très attention, quand les traductions sont fidèles, à tous ces graphismes. Les parenthèses, les guillemets, les mots soulignés, les mots italiques, parce que ça indique toujours une insistance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas toujours, mais il faut tout de même être attentif à ça. Nous réserver. Ben, la science, en général, on s'en fout. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte à nous? À mon expérience. Ne pas s'attacher à son propre détachement. Se détacher de son propre détachement. À cette volupté du lointain qui est celle de l'oiseau volant toujours plus haut, pour voir l'espace s'élargir sous ses ailes, c'est le péril de celui qui vole. Ne pas s'attacher à ses vertus et ne pas sacrifier son être total à une particularité quelconque, par exemple à son goût de l'hospitalité, péril par excellence des âmes nobles et riches, qui sont prodigues et comme insoucieuses d'elles-mêmes et portent jusqu'au vice la vertu de générosité. Quand on accueille trop, on finit par ne plus accueillir et se perdre. On doit savoir se garder. C'est la plus forte preuve d'indépendance. Voilà, c'est donc une philosophie du se garder soi-même. Et nous avons là un trait certainement tout à fait caractéristique. Alors je vais lire d'autres textes, mais j'en viens donc maintenant au livre lui-même, et d'abord à son titre. Jenseits von Gut und Böse, Vorspiel einer Philosophie der Zukunft. Donc, par-delà bien et mal, prélude, Vorspiel, à une philosophie du futur. Alors, je crois que sont très importants ces deux phrases que nous aurons à loisir le temps de commenter. Je crois d'abord qu'il faut bien insister sur l'absence d'articles. Contrairement à certaines traductions, et d'ailleurs en fidélité à l'allemand, il n'y a pas le bien et le mal. Alors, on dirait ça c'est du byzantinisme, comme dirait Nietzsche lui-même. Non. Ça veut dire, nous aurons l'occasion de le voir tout au long et surtout dans les deux premiers paragraphes, qu'il n'y a pas un bien d'un côté et un mal de l'autre. Il ne faut pas substantiver, essentialiser le bien et le mal, car la grande expérience, intuition nietzschéenne, c'est que les deux se mêlent et que l'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre, qu'il y a un entremêlement, qu'il y a une sorte de complicité entre bien et mal. Donc il faut éviter les dualismes et les manichéismes, et Dieu sait si Nietzsche est opposé à toute forme de manichéisme, qui situerait d'un côté le camp du bien et de l'autre côté le camp du mal. Ça, alors c'est absolument anti-nietzschéen. Alors nous reviendrons là-dessus. L'idée c'est effectivement que la distinction, quand elle est prise à la lettre, est une distinction piégée qui ne permet pas de comprendre ce qu'il en est finalement de la morale, de la vie morale, qui intéresse particulièrement, évidemment, notre auteur. Alors, on peut revenir aussi sur le prélude à une philosophie de l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, je vais lire quelques textes. Nietzsche a toujours eu le sentiment que s'il n'était pas compris de son temps, il le serait dans le futur. Que ses contemporains n'avaient pas les oreilles pour entendre ce qu'il avait à dire, parce que ce qu'il avait à dire était trop en décalage, intempestif, mais qu'un jour viendrait où l'on entendrait mieux, ou moins mal. On peut dire que de ce point de vue-là, il n'a pas eu tout à fait tort, il a eu cette intuition qu'en effet, son discours était suffisamment original pour ne pas être aperçu tout de suite, et que ça viendra dans l'avenir. Mais il l'annonce aussi, alors ça c'est certainement plus discutable, des philosophes du futur. Alors je lis deux textes, 42 et 43. Une nouvelle race de philosophes monte à l'horizon. Je me hasarde à les baptiser d'un nom qui ne va pas sans danger. Donc il est conscient que cette idée de philosophe de l'avenir, oui, c'est un pétard, pas seulement mouillé, mais que c'est dangereux. On va le prendre avec des pincettes. Il ne vous dit pas, philosophie de l'avenir, je vous prévois. Non, philosophie de l'avenir, je ne peux pas dire autre chose, mais je me rends compte que c'est... Oui, c'est pas très heureux, mais je le dis quand même. Tel que je les pressens, tel qu'ils se laissent pressentir. Car il appartient à leur nature de vouloir rester des énigmes sur quelques points. Ces philosophes de l'avenir voudraient avoir le droit, peut-être aussi le tort, d'être appelés des tentateurs. Ce terme même n'est en fin de compte qu'une tentative, ou si l'on veut, une tentation. Eh bien, il me semble qu'on pourrait dire que la pensée de Nietzsche est une pensée de la tentation ou de la tentative. Une pensée de la tentative et de la tentation, c'est-à-dire que pour écorcher les oreilles d'un lecteur qui n'entend pas, il va crier fort et dire des énormités. Et donc la tentation sera de dire, ce type excessif, je l'envoie balader. Donc je n'écoute pas. Très bien, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour entendre. Mettez le livre de côté. Et on peut tout à fait, en effet, ne pas lire Nietzsche. C'est lui-même qui le dit. Mais c'est en même temps une philosophie de la tentation. Et ça rejoint le thème de la vérité. C'est-à-dire que c'est une philosophie de l'hypothèse. Et si cette idée était juste? Et si cette hypothèse était féconde? Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de penser que... Mais on ne dit pas la réalité correspond à cette pensée. Par exemple, pour l'éternel retour. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au lieu de penser le monde comme l'histoire comme une finalité qui va en s'accroissant positivement vers le royaume des cieux, la société sans classe et sans état, qui est une foutaise aux yeux de Nietzsche, est-ce qu'on ne pourrait pas penser, au contraire, l'idée d'un éternel retour? Il vous dit pas, voilà la vérité là. Il vous dit, essayez d'envisager ça. Laissez-vous tenter par comme dans les magasins, on dit, si vous tentez par une glace à la vanille, vous allez voir qu'elle n'est pas mauvaise, en prenant une autre peut-être, puis peut-être vous n'aimez pas. Mais pensez de la tentation. C'est évidemment capital. Est-ce qu'on accepte de se laisser tenter, de courir l'aventure? Et voyez, il vous dit l'aventure, l'oiseau qui vole, etc. Courir l'aventure. Si on n'est pas capable de voler, ben, il vaut mieux rester au sol. Donc si on a peur de voir ébranler ses idées, tournez la page. Vous allez voir des auteurs classiques, ce qu'ils appellent des dogmatiques, qui vous rassureront. Alors, paragraphe 43. Serait-il de nouveaux amis de la vérité, entre guillemets, ces philosophes à venir? Très probablement. Très probablement. Alors, vous avez des gens qui vous disent, ah, Nietzsche envoie balader la vérité. Hein? Un philosophe américain s'appelle Richard Rorty, en particulier. Non, pour Nietzsche, la vérité, c'est non. Sont-ils des nouveaux amis de la vérité, ces philosophes? Très probablement. Car tous les philosophes connus ont aimé leur vérité. Ah, oui, ils vont aimer la vérité, mais leur vérité. Pourtant, ce ne seront certainement pas des dogmatiques. Les dogmatiques, c'est ceux qui disent « ma vérité, c'est la vérité ». Ce ne seront pas des dogmatiques. Leur orgueil, autant que leur goût, s'insurgera à l'idée que leur vérité doit être une vérité pour tous, ce qui jusqu'ici fut secrètement le vœu et l'arrière-pensée de toutes les visées dogmatiques. Mon jugement est mon jugement, et je n'admets pas volontiers qu'un autre y ait droit, dira peut-être, un de ces philosophes futurs. Il faut se défaire de ce mauvais goût, vouloir s'accorder avec le grand nombre. Bien ne signifie plus bien dans la bouche du voisin. Et comment y aurait-il un bien commun? Le mot renferme une contradiction. Ce qui peut être commun n'a jamais que peu de valeur. Finalement, il en sera, comme il en a toujours été, les grandes choses appartiendront aux grands hommes, les profondeurs aux hommes profonds, le raffinement et le frisson aux hommes raffinés, et en un mot, tout ce qui est rare aux hommes rares. Alors on irait là, si on veut, toute la philosophie politique de Nietzsche. Vous voyez bien que ce n'est pas une pensée démocratique. Dès qu'une vérité devient vulgarisée, popularisée, commune, le bien commun de tout le monde, elle devient une banalité. Elle devient une banalité. La vérité ne peut être que rare, précieuse. On ne peut pas l'étaler, on ne peut pas faire étalage de la vérité. Alors, pensée aristocratique, nous allons voir dans les textes l'importance de la référence à la morale noble, à l'aristocratie. Vous voyez, aristocratie qui n'est pas la noblesse de Versailles, de l'Ancien Régime, qui est la distinction. La vérité se voit dans la distinction. À nouveau, le côté artistique de Nietzsche. Il faut une oreille avertie pour bien entendre du Chopin ou de Debussy. Ça n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez ça? Alors, de fait, il n'est pas du tout moderne, de ce point de vue-là. Où vous avez de la musique à 24 heures sur 24, n'importe qui. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Ce qu'il va reprocher d'ailleurs à Wagner, c'est ça. C'est de faire une espèce de musique populaire, en faisant des tas de concessions aux zimboum-boum, comme il dit. C'est-à-dire, bon, pour étourdir le peuple. Mais la véritable musique, comme la vérité, n'étourdit personne. N'est-ce pas? C'est une vérité rare. Donc les philosophes de l'avenir seront des gens qui ne renonceront pas à la vérité, mais ne la populariseront pas. Voyez, pour tous, en réalité pour personne. Avec cette formule qui revient sans cesse, qui a des oreilles pour entendre, qui l'entende. L'arrière-fond biblique de Nietzsche est incontestable. Et je vous signale, quand vous le lisez, d'être tout à fait attentif à ça. Ce que la plupart de nos philosophes laïcs ne voient pas. Parce que pour eux, la Bible, c'est pas très bien ce que c'est. Mais si vous êtes attentif à cette culture biblique protestante de Nietzsche, vous apercevez que affleure sans arrêt sa culture biblique. Qui a des oreilles pour entendre, qui l'entende. Si vous n'avez pas d'oreille, voilà, la vérité est rare, mais c'est dans l'Évangile. Bon, il reprend cette idée. Bah, qui nous scandalise dans l'Évangile. Il dit, comment ça? Mais alors le message, il doit... La lumière, tout le monde doit être éclairé. Ah non, mais non. Une lumière qui éclaire tout le monde, elle aveugle tout le monde. Mais il faut là... Là, il faut du... Ce que j'appelais tout à l'heure de la nuance, il faut du style. Voilà, donc... le par-delà bien le mal, prélude, ouverture à une philosophie de l'avenir ou à des philosophes de l'avenir. Alors, il faut encore ajouter un autre point sur ce titre, par-delà bien le mal, et sur ce que Nietzsche lui-même va dire de ce texte. J'ai signalé tout à l'heure que c'est un texte qui fait suite à Ainsi parlait Zarathoustra. Les deux textes qui suivent Ainsi parlait Zarathoustra, c'est celui-ci et La généalogie de la morale. Or, dans Ecce Homo, Nietzsche s'explique sur cette suite. Le Zarathoustra, c'est le grand texte de l'affirmation. C'est le grand texte du oui à toute chose, le texte de la bénédiction de la réalité. Zarathoustra veut être le prophète de l'éternel retour du même et de la beauté tragique, mais de la beauté du monde. Donc c'est un texte qui va dans le sens de l'affirmation, et de l'affirmation la plus inconditionnelle au monde. Mais Nietzsche s'avise après coup que cette thèse, comme il l'appelle lui-même, « meine Lehre », ma doctrine, peut être interprété, comme le font d'ailleurs les disciples dans le Zarathoustra, comme une sorte de béni oui-oui. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les petits oiseaux, le soleil à midi, la mer. Qui... Est-ce qu'on ne risque pas d'oublier le tragique, c'est-à-dire le mal, la mort, la violence, ce qu'il appelle l'ausbeutung, l'exploitation? Alors, je lis ce petit texte dans Ecce Homo. Alors, c'est un texte amusant, donc tout à fait de la fin, 87, Ecce Homo, nouveau, Ecce Homo, d'où ça sort, procède Jésus, Pilate, voilà l'homme. Alors, c'est, vous voyez, l'identification d'ailleurs de Nietzsche au Christ, dans ses périodes de folie, en janvier 89, il envoie divers messages, en disant qu'il est le Christ, qu'il est le Messie, etc., une identification... au Christ, qui est d'ailleurs tout à fait surprenante et intéressante. En tout cas, dans Ecce Homo, on ne peut pas dire, plus nettement que... Alors peut-être il y a un peu un grain de folie qui s'identifie au Nietzsche. Alors c'est un texte très, très amusant parce que, comme souvent, Nietzsche relit ses propres œuvres. Vous voyez, la rumination. Il ne dit pas, bon, ça a été publié, je le laisse de côté. Il revient sur ses œuvres pour les réinterpréter. Tel est le cas d'ailleurs de la préface de Par-delà bien le mal, sur laquelle nous allons revenir la prochaine fois. Mais dans Ecce Homo, il revient sur chacun de ses livres et il, au fond, il les situe. Et donc, vous avez ceci. La tâche des années suivantes, après le Zarathoustra, était prescrite d'avance aussi rigoureusement que possible. Une fois résolue, la partie affirmatrice de ma tâche venait alors sa moitié négatrice, celle de l'action négatrice. La révélation des valeurs admises jusque-là, la grande guerre qui provoquait le jour de la décision. La grande guerre contre les valeurs. Alors attention, ne faisons pas glisser Nietzsche du côté du bellicisme. Il ne dit pas qu'il faut faire une guerre avec des tanks. C'est la guerre intellectuelle contre les illusions de la morale. Cela comprenait aussi la longue recherche autour de moi de mes proches, de ceux qui me prêteraient la main, leur force aidant, pour la Vernichtung, pour l'anéantissement. Depuis cette époque, tous mes écrits sont des hameçons. Serait-ce que je m'y connais en pêche à la ligne aussi bien que personne? Un nouveau humour, je veux pêche à la ligne. Mais malheureusement, il n'y a pas de poisson au bout. Si rien n'a mordu, la faute ne m'en incombe pas, il n'y avait pas de poisson. Hein, toujours... bon, il faut prendre avec humour et vous riez à juste titre. Il n'y avait pas de poisson. J'ai pêché, mais... Et à nouveau, j'ai dansé sur les places, j'ai joué de la musique. On n'est pas dansé. Hein, le Roland biblique. Deuxième paragraphe. Ce livre, par-delà bien mal, est essentiellement une critique de la modernité. y compris des sciences modernes, des arts modernes, même de la politique moderne, avec des indications du type opposé, opposé à la démocratie moderne, qui est aussi peu moderne que possible, un type noble, fornem, je reviendrai sur ce mot, et affirmateur. En ce dernier sens, ce livre est une école du gentilhomme. Gentilhomme en démocratie, on dit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette idée prise dans un sens plus intellectuel et plus radical que jamais. Il faut avoir du cœur au ventre pour pouvoir même la supporter. Il ne faut pas avoir appris la crainte. Toutes les choses dont l'époque est fière sont ressenties comme antithèses de ce type, presque comme de mauvaises manières. Par exemple, la fameuse objectivité. Pas le scientifique, dis-moi, l'objectivité même, n'est-ce pas ? Dans mon laboratoire, la pitié pour tout ce qui souffre. Le sens historique, avec son assujettissement au goût d'autrui, avec sa servilité à plat ventre, devant les petits faits, en français. La scientificité. Si l'on considère que le livre est postérieur aux Zarathoustra, on devinera peut-être du même coup le régime diététique auquel il doit sa composition. L'œil, gâté par la formidable obligation de regarder dans le lointain, c'était Zarathoustra, est ici contraint de saisir de manière perçante le plus proche, l'époque, les alentours. Donc Zarathoustra, c'est on regarde à l'infini. Oui, mais il faudrait regarder où on met les pieds, par de là bien et mal. On découvrira de bout en bout, surtout dans la forme, un égal éloignement volontaire des instincts qui ont rendu possible un Zarathoustra. Donc, si l'on comprend bien, on est aux antipodes du Zarathoustra. Le raffinement, en français, dans la forme, dans l'intention, dans l'art de se taire, s'impose au premier plan. La psychologie est maniée avec une dureté et une cruauté avouées. Donc, vous voyez, si vous êtes brutalisé, il ne faut pas vous étonner, l'auteur vous l'annonce. Ça a été voulu. Mais cela s'imposera. Qui devinera finalement quelle sorte de détente est requise par le gaspillage de bonté que constitue le Zarathoustra ? Théologiquement parlant, tiret, qu'on écoute bien, car je parle rarement en théologien, tiret, c'est Dieu lui-même qui, sous l'apparence du serpent, s'est reposé à la fin de sa tâche sous l'arbre de la connaissance. Il se reposait d'être Dieu. Tout ce qu'il avait fait était trop beau. Le diable n'est que le loisir de Dieu au septième jour. Bon, on peut dire il se prend pas pour il se prend pas pour rien. Mais voyez à nouveau la comparaison biblique. Le Zarathoustra, c'est les six jours de la création. C'est beau, c'est magnifique, tout est splendide, n'est-ce pas ? C'est le champ, le soleil, la nature, le grand air. Ah là là, mais c'est quand même épuisant tout ça. Alors on se fatigue. Même Dieu se fatigue, vous voyez, le septième jour, il a dit tout est très beau. Ben, arrêtons un peu. Alors attention, le diable. Le diable est sous l'arbre, c'est-à-dire sous la grande beauté. Il y a le diable. Et au fond, c'est le point de vue du diable sur l'affirmation. Donc c'est l'insistance sur le négatif par rapport à l'affirmation. Alors évidemment, il ne faut pas oublier l'affirmation. Nous allons nous plonger dans les diableries, c'est-à-dire dans le négatif, mais il ne faut pas oublier l'affirmatif. Et nous avons là encore un gros problème d'interprétation de Nietzsche. On voit très bien que, je dirais, la majorité des interprètes, puis le lieu commun, c'est de dire Nietzsche, c'est le destructeur, c'est le maître du soupçon, c'est le négativiste, etc. Ce qu'il est. Mais on oublie l'autre revers de la médaille. Le nom n'est que l'ombre portée le septième jour des six autres. Alors voilà, la plupart des interprètes font du septième jour de la création, ou de la présence du repos de Dieu et de la présence de Satan, le tout de la création. Mais non. Le négatif ne se comprend que par rapport à l'affirmatif. Alors, le piège de la lecture, c'est de ne voir que le négatif, et ça c'est le Nietzsche courant, hein, le Nietzsche commercialisé, et ne pas voir le positif. Voilà, donc on pourrait dire que le Zarathoustra est considéré par Nietzsche comme trop idéaliste, idéalisant, ouvrant la voie à des interprétations trop optimistes et en oubliant, pour parler à la Hegel, comme la présence du négatif. Tandis que le Parler bien et mal va nous mettre en présence du négatif. Alors, on voit bien quelques difficultés de la lecture de ce texte. La première difficulté, c'est évidemment que nous n'avons pas lu le Zarathoustra, et que ce texte suppose quand même le Zarathoustra, puisqu'il est le correctif en négatif, en sombre de ce texte. Et donc, on risque d'avoir, de faire des contresens si l'on n'a pas en tête ce magnifique poème, très difficile à interpréter, qu'est le Zarathoustra. Mais il y a des difficultés internes, et je voudrais en signaler trois. La première difficulté, et je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aux yeux de Nietzsche, on ne peut pas faire autrement que d'écrire, que de passer par la lettre, mais la lettre trahit toujours plus ou moins le texte. Et je vous renvoie au paragraphe 296, qui est le dernier du « Par-delà bien et mal ». Donc Nietzsche termine son livre et il écrit ceci. « Hélas, mes pensées, qu'êtes-vous devenues maintenant que vous voilà écrites et peintes ? Il n'y a pas longtemps, vous étiez si diaprées, si jeunes, si malignes, pleines de piquants et de secrètes épices, qui me faisait éternuer et rire. Et à présent, éternuer et rire. Et à présent, déjà vous avez perdu la fleur de votre nouveauté, et quelques-unes d'entre vous, je le crains, sont en passe de devenir des vérités. Elles ont l'air déjà si impérissables, si mortellement inattaquables, si ennuyeux. Bah, tout le monde sait par la gamme. Ah oui, il veut surmonter la morale, le cliché. C'est foutu. Et en fut-il jamais autrement? Qu'écrivons-nous, que peignons-nous avec nos pinceaux chinois, nous autres mandarins, éterniseurs de choses qui peuvent s'écrire? Que sommes-nous capables de reproduire? Hélas, seulement ce qui va se faner et commence à s'inventer. Hélas, seulement des orages qui s'éloignent et s'épuisent, des sentiments ternes et tardifs. Hélas, seulement des oiseaux, là de voler, égarés, et qui se laisse prendre dans la main, dans notre main. Vous voyez, la vérité, c'est comme l'oiseau. Si vous le prenez dans votre main, il est foutu. L'oiseau, il faut le laisser voler. Voilà des vérités qu'on va tenir dans la main. Nous éternisons ce qui ne peut plus vivre ni voler très longtemps, des choses exténuées et trop mûres. Et ce n'est que pour votre après-midi, aurore, midi, après. Ce n'est que pour votre après-midi, ô mes pensées écrites et peintes, que je possède des couleurs, beaucoup de couleurs peut-être, beaucoup de teintes délicates, 50 jaunes, brun, vert, rouge, mais nul à vous voir ne devinera votre éclat matinal, étincelle subite et merveille de ma solitude, mes vieilles, mes chères, mes mauvaises pensées. Soulignez, vous voyez, tentation. Mes mauvaises pensées. Ben, mes mauvaises pensées, quand elles sont publiées pour le grand peuple, quand on les met en livre de poche, c'est foutu. Oui. Alors voilà le problème, c'est que, et ça c'est une question pour Nietzsche lui-même, c'est la retombée de l'élan créateur. N'est-ce pas, on pourrait dire, la nouveau le côté artiste, lorsqu'un peintre a fait un tableau, bah, il dit c'est pas le bon tableau, ça vaut rien. Par rapport à la Sainte Victoire, la voyez Cézanne telle qu'il l'a peint. Ben, le fait est qu'il l'a peint plusieurs fois. Pourquoi il l'a peint plusieurs fois? Parce qu'aucune des Saintes Victoires peintes ne répond à ce qu'il voit de la Sainte Victoire. Donc c'est chaque fois gâché. C'est chaque fois insatisfait. Et cependant, il est peintre. Il ne peut pas ne pas peindre la Sainte Victoire, mais à chaque fois, il déchire la toile. Cézanne ne le déchirait pas. Mais bon. Alors voilà, c'est l'après-coup de l'acte créateur. Ça veut dire que Nietzsche ne peut pas se passer d'écrire. Mais, j'ouvre une petite parenthèse, il y a deux hommes dans la tradition occidentale qu'il admire grandement parce qu'ils n'ont rien écrit. C'est Socrate et c'est Jésus. Nous retrouvons la Grèce, Christianus. Ils n'ont rien écrit. Nietzsche écrit dans le Ecce Homo, pourquoi ils n'ont rien écrit à cause de ça, ce paragraphe. Parce qu'ils savaient très bien que leur message serait figé et donc déformé. Mais heureusement, il y a eu des disciples. Ah, oh, les disciples, ils ont pris des notes. Platon, il a pris des notes. Alors maintenant, on sait ce que c'était que Socrate. Les disciples ont pris des notes. Maintenant, on sait ce que c'est que Jésus. Voilà le problème. Le message évangélique pouvait-il échapper à l'écrit? La pensée nietzschéenne pourrait-elle échapper à l'écrit? Non. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser piéger dans l'écrit. Vous voyez, Nietzsche est un herméneute, un philologue. Il sait qu'il faut savoir interpréter les textes. Auslegen. Il ne faut jamais prendre le texte à la lettre, parce que le texte est toujours trompeur. On ne peut pas se passer du texte. Il fallait bien Platon pour qu'on ait Socrate, il fallait bien les disciples pour qu'on ait Jésus. Mais attention, on ne prenait pas ce qu'ils disent à la lettre. Interprétez. Donc faites preuve d'intelligence. Le texte, oui. Mais de quoi parle-t-il? Donc la référence est absolument essentielle. Ça, c'est une première chose. Et on pourrait dire que, voilà, il y a aussi l'image du matin, de l'après-midi, du soir. Et pour Hegel, la pensée ne surgit que le soir, elle recueille. Elle ramasse. Mais pour Nietzsche, la vraie pensée, elle est matinale. Le soir, on s'endort. On ramasse. Vous avez ramassé, vous êtes bien avancé. L'intérêt, c'est ce qui surgit. C'est le matin. Pensée aurorale, l'aurore. Bon, ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que quiconque a vécu de manière profonde, dans la maladie et la souffrance, ne peut que dissimuler l'expérience qu'il a faite. Il ne peut pas la dire tout de go. Il doit utiliser des masques. Je prends à nouveau deux paragraphes significatifs, le 40. Très beau texte. Tout ce qui est profond aime le masque. Les choses les plus profondes haïssent même l'image et le symbole. Le contraste, Gegensatz en allemand, contraire. Ne serait-il pas le vrai travestissement où se cacherait la pudeur d'un dieu? Le travestissement, la pudeur d'un dieu. Entre parenthèses, Nietzsche admirait beaucoup Pascal. Pascal, le dieu caché. Un dieu qui se révélerait comme ça. Non, un vrai dieu, il se cache, il a de la pudeur, mais comme un amour. On ne saute pas au cou des gens, on fait vous aimer. Pudeur. Le contraste, l'opposé, ne serait-il pas le vrai travestissement où se cacherait la pudeur d'un dieu? Question troublante. Il serait étrange qu'aucun mystique n'eût agi de la sorte pour son propre compte. Référence au mystique. Le mystique ne peut pas ne pas parler. Mais il ne peut jamais dire son expérience. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Comme Jean de la Croix, il va faire des poésies. Il va évoquer. C'est-à-dire, il va prendre un masque. Il est des choses si délicates qu'on fait bien de les ensevelir sous une grossièreté pour les rendre méconnaissables. Il est des actes d'amour et de générosité excessive avec lesquels il ne reste rien de mieux à faire que de prendre un bâton et rosser le témoin, ainsi lui brouillera-t-on la mémoire. Plus d'un s'entend à brouiller et à maltraiter sa mémoire pour se venger au moins de cet unique complice, la pudeur est inventive. Ce ne sont pas les pires choses qui nous font rougir le plus. Il n'y a pas que de la perfidie derrière un masque. Il entre tant de bonté dans la ruse. J'imagine très bien un homme qui, ayant à dissimuler quelque chose de précieux et de fragile, roulerait à travers l'existence avec autant de rondeur et de grossièreté qu'une vieille futaille lourdement cerclée, ainsi le veut la délicatesse. Cet homme secret qui use instinctivement de la parole pour se taire. On dit, mais il ne sait pas ce qu'il dit, ce type. Il use la parole pour se taire? Écoutez bien. C'est pas le fracas. Comme le poète, il vous suggère. Vous entendez, vous entendez pas. Mais le poète qui ferait des hurlements, c'est un tribun, c'est pas un poète, c'est pas un mystique. Cet homme secret qui use instinctivement de la parole pour se taire et taire ce qui doit rester enfoui, qui invente inépuisablement des ruses pour se soustraire à la communication, ça c'est Nietzsche, bien entendu. Cet homme, dis-je, ne désire rien tant que de voir un masque lui tenir lieu de visage dans l'esprit et le cœur de ses amis. Et s'il ne le désire pas, ses yeux s'ouvriront un jour et il verra qu'il se confond tout de même avec un masque et que c'est bien ainsi. Tout esprit profond a besoin d'un masque. Je dirais plus, un masque se forme sans cesse autour de tout esprit profond parce que chacune de ses paroles, chacun de ses actes, chacune de ses manifestations est continuellement l'objet d'une interprétation fausse, c'est-à-dire plate. Bon, je pense que vous voyez là toute l'expérience qui est derrière. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça. Il faut les suggérer. La profondeur appelle le masque. C'est pas pour tromper les gens, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà la vérité. La vérité, elle se dit, quand un médecin parle à un malade, il va lui mettre le diagnostic, les statistiques, là, pour dire, monsieur, dans 15 jours, prenez les pompes funèbres. Il va suggérer, il va laisser entendre, il va... Et si le malade a les oreilles pour entendre, il entendra. Pas besoin de lui asséner la vérité, la splendeur de la vérité. Oh là là, oh là là. Baissez la lumière, s'il vous plaît. 290, excusez-moi, mais il faut bien rire un peu. 290, aussi un texte assez magnifique. Tout penseur profond, suivez mon regard, évidemment, tout penseur profond craint plus d'être compris que d'être mal compris. Dans le second cas, être mal compris, sa vanité souffre peut-être. Mais dans le premier cas, c'est son cœur, sa sympathie qui redit sans cesse « Hélas, pourquoi voulez-vous vivre aussi durement que je vis moi-même ?» Aussi durement que je vis moi-même. Voilà, l'expérience nietzschéenne, c'est l'expérience de la maladie, il a touché le fond. Vous voudriez faire la même expérience ? Accepter justement de ne pas comprendre cette profondeur. Alors, je dirais, voilà, c'est une philosophie de l'égarement et du labyrinthe, pour la raison qu'on vient de dire. On ne peut pas aller à la vérité tout droit. Il y a des choses profondes que les mystiques connaissent, qu'ils ne peuvent pas dire autrement que par un langage détourné. Labyrinthe, il faut errer, ruminer. Alors, bien entendu, on peut penser que cette philosophie de l'égarement est une philosophie qui pense qu'il n'y a pas de chemin du tout. Interprétation nihiliste de cette pensée, il n'y a pas de chemin du tout, ou bien on va dire, il n'y a pas de chemin tout tracé. Chemin tellement tracé que le philosophe vous prendrait par la main pour vous conduire du point où vous êtes et vous amener à un autre. Alors, je vais dire quelque chose de caricatural, mais au fond, quand vous lisez Descartes, il vous dit, bon, écoutez, vous ne savez pas comment aller à la pensée, qui pense vraiment, je vais vous prendre par la main. Suivez bien mes méditations une par une, et nous allons progresser, et à la fin, vous allez comprendre. Une caricature. Vous lisez la phénoménologie de l'esprit, on dit, vous êtes dans le sensible, empêtré dans le sensible. On va vous conduire, et si vous êtes patient, vous atteindrez le savoir absolu. Alors, ça, c'est aussi peu nietzschéen que possible. Il n'y a pas de chemin, parce que chacun est son chemin à lui-même. Donc, le chemin de Nietzsche, vous pouvez l'écouter ou ne pas l'écouter, mais le chemin de Nietzsche vous indique que vous avez votre chemin à vous. Le très beau texte, un petit poème au début du Gai Savoir, « Vade mecum, vade tecum ». Que je traduirai ainsi, si tu veux aller avec moi, va avec toi. Tu veux être mon disciple, ne m'imite pas, prends ton chemin à toi. Alors, le chemin de Nietzsche peut t'éclairer, peut éventuellement, mais il n'y a pas de chemin commun. À nouveau, critique du grégarisme, de la vérité comme une sorte d'autoroute à grande circulation, de l'écrit qui vulgarise, qui rend commun ce qui est singulier. Paragraphe 289, aussi un texte assez renversant. on perçoit toujours dans les écrits d'un solitaire. Vous voyez qui c'est, le solitaire. On perçoit toujours dans les écrits d'un solitaire une sorte d'écho du désert. C'est sûr que Nietzsche n'est pas l'homme de la foule, hein. L'écho du désert, quelque chose qui rappelle le murmure et la circonspection farouche de la solitude. Même dans ses paroles les plus violentes et jusque dans ses cris, résonne encore une manière nouvelle, plus dangereuse de se taire et d'imposer silence à sa parole. Celui qui, année après année, a poursuivi nuit et jour un intime débat avec son âme, un intime débat avec son âme, celui qui, dans sa caverne, Platon, qui peut être un labyrinthe, mais aussi une mine d'or, labyrinthe, mine d'or, celui qui, dans sa caverne, est devenu l'ours, et Dieu sait si quelquefois Nietzsche est un ours mal léché, est devenu un ours, l'ours de cette caverne, ou un chercheur de trésors, ou un gardien de trésors, pareil, un dragon, cet homme verra ses idées mêmes prendre une couleur crépusculaire, une odeur d'abîme aussi bien que de moisie, quelque chose d'incommunicable et de rébarbatif qui glacera ceux qui passent à sa portée. Le solitaire ne croit pas qu'aucune philosophie, si tant est qu'un philosophe commence toujours par être un solitaire, ait jamais exprimé dans des livres ses véritables et ultimes opinions. N'écrit-on pas précisément des livres pour dissimuler ce qu'on cache en soi ? Il doutera même qu'un philosophe puisse avoir des opinions ultimes et véritables, entre guillemets. Il se demandera si derrière toute caverne ne s'ouvre pas, ne doit pas s'ouvrir une caverne plus profonde, si un monde plus vaste, plus étranger, plus riche ne s'étend pas au-dessous de la superficialité, si un tréfonds ne se creuse pas sous chaque fond, chaque fondement, entre guillemets, de la pensée. Toute philosophie écrite, c'est moi qui rajoute, toute philosophie est une philosophie de passade, de façade. Tel est le jugement du solitaire. Et entre guillemets, il y a quelque chose d'arbitraire dans le fait qu'il se soit arrêté ici pour regarder en arrière et autour de lui, dans le fait qu'il ait cessé ici de creuser plus avant et de déposer sa pioche, il entre aussi de la méfiance là-dedans. Fin de cette citation. Toute philosophie dissimule aussi une philosophie, toute opinion est aussi une cachette, toute parole est aussi un masque. Alors, cela ne rend pas facile, évidemment, l'interprétation, puisque derrière un masque se cache un autre masque, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le perspectivisme. Il faut être méfiant quand on a trop vite compris, parce qu'on a identifié la profondeur à la platitude, à la vérité transposable, transportable, n'est-ce pas, la vérité sans peine. Or, il n'y a pas de vérité sans peine. Et le langage lui-même peut être trompeur, parce que l'expérience qu'on fait du réel est irréductible à tout langage. Ça, je crois que c'est une grande thèse Nietzsche. Alors, on peut évidemment dire, ben, vous voyez, Nietzsche ne croit pas au langage. C'est une philosophie de la destruction du langage, parce que le langage trompe, etc. Vous avez toute une interprétation chez nos déconstructeurs nihilistes qui vont dans ce sens. On voit bien la tentation de Nietzsche, ce serait la tentation de se taire. Mais il ne peut pas se taire. Simplement, il faut trouver un langage, d'où les aphorismes, d'où la poésie, tel qu'il ne soit pas trop un piège. Le langage compte, et Dieu sait si Nietzsche écrit bien. Donc Dieu sait s'il respecte le langage, mais pas en pensant que le langage détient en lui-même et de lui-même la vérité. Donc c'est une philosophie masquée, qui en effet accepte le risque que ce masque défigure ce dont il est question. Alors, j'ajouterai la prochaine fois une troisième remarque, c'est que il faut bien voir que Nietzsche nous parle de quelque part. Il parle de lui, il parle de la solitude et d'une solitude de la souffrance. Si on oublie ces aspects, évidemment, on fait de Nietzsche. Alors, là encore, il faut bien voir que la pensée nietzschéenne n'est en aucune façon une pensée militante, ni une pensée de la solidarité. Marx pense qu'il pense pour les prolétaires qui ne pensent pas et qui ne peuvent pas penser. Mais Nietzsche ne pense pas pour qui que ce soit. Il a assez à faire à penser pour lui. Alors vous allez me dire, c'est affreux, qu'est-ce qu'on fait du collectif, et qu'est-ce qu'il fait du prolétaire. Bon, suspense, nous reviendrons là-dessus la prochaine fois. Voilà, donc nous lirons la préface, et puis si vous avez le temps aussi de regarder les deux premiers aphorismes. Mais nous commençons par des questions, si vous en avez, sur ce que nous avons rapidement vu aujourd'hui.
Mais je ne suis pas financier, je vous le donne tout de suite. Greenspan, qui était longtemps le président de la Fed américaine, qui faisait un gros temps sur les marchés, c'est son exposé. Et quelqu'un sérieusement me demande, si je vous ai bien compris, de l'interrompre. Si vous avez bien compris, c'est que je me suis trop mal exprimé.
C'est quelque chose de ça. Oui, il y a un peu de ça, oui. Oui. Il faut se méfier d'avoir trop vite compris, en tout cas. Et ça, c'est vrai, tout problème. C'est vrai, toute relation humaine, hein, dans un couple, quand on croit qu'on a compris ses enfants, etc.